Alors, ce soir, nous allons partager sur le disciple et l'administration des biens confiés. Le disciple et l'administration des biens confiés. Alléluia. Le disciple et l'administration des biens confiés. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de l'administration des biens confiés, nous voyons directement dans l'administration, l'organisation. Alléluia. L'organisation, parce que tu ne peux pas administrer si tu n'organises pas. Amen. Si tu n'organises pas, si tu n'as pas la capacité d'organiser l'administration, nous parlons aussi de direction. Amen. De direction. La Bible nous enseigne même d'ailleurs que dans l'Église, il y avait des gens qui avaient le don de diriger. Alléluia, il y a le don de diriger. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à diriger, hein? Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Il y a des gens qui ont acquis la capacité de diriger en allant à l'école. Aujourd'hui, nous avons des gens qui dirigent quand ils vont à l'ENAM. Ils deviennent des préfets, des sous-préfets, ils deviennent des gouverneurs et cela leur donne la capacité de diriger. Maintenant, il y a des gens en qui Dieu met la grâce de pouvoir diriger sans être passé par ces écoles. Ces écoles-là, alléluia. Et aujourd'hui, nous les avons comme des coachs de vie, alléluia. Des gens qui ont réussi dans un domaine de la vie et donc, par leur expérience, peuvent nous aider à anticiper sur notre manière de marcher, de notre manière de fonctionner au quotidien, alléluia. Donc, alors, quand nous parlons d'administration de biens ici, bien-aimés, nous parlons du disciple comme un économe. Est-ce qu'on peut ouvrir notre Bible? Allons-y rapidement dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 42. Luc 12, le verset 42. Alors, c'est une remarque que va faire l'apôtre Pierre. Alléluia, au Seigneur Jésus. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, il avait l'habitude d'enseigner au peuple en parabole, mais à ses disciples, il enseignait avec un langage clair. Alléluia. Alors, voici ce que l'apôtre Pierre va dire ici dans Luc 12, 42. Et le Seigneur va lui répondre parce qu'il va dire, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Alléluia. Le verset 42 qui est notre texte. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je reprends la lecture. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un administrateur, asseyons-nous bien aimés, qu'est-ce qu'un administrateur? Un administrateur est un économe. Un administrateur est un dispensateur. Alléluia. Un administrateur est un intendant. Amen. Est un intendant. Alléluia. Un administrateur est un gardien. Il est le gardien de quelque chose. Alléluia. La plupart de nous qui sommes ici, qui sommes des parents, nous sommes des administrateurs des enfants que Dieu nous a confiés. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. L'enfant que tu as là, tu ne sais pas d'où il vient. Et tu ne sais même pas où il va. Mais pendant son séjour sur la terre, Dieu te le prête. Du coup, tu deviens un administrateur. Alléluia. Tu deviens un administrateur. Alors, quand on parle donc d'administrateur, nous parlons d'économe, nous parlons de dispensateur, nous parlons d'intendant, nous parlons de domestique. Alléluia. Et donc, un administrateur, c'est quelqu'un qui remplit des fonctions dans la maison. C'est quelqu'un qui remplit des fonctions dans l'église. C'est quelqu'un qui remplit des fonctions dans la société. Alléluia. Dans la Bible, d'ailleurs, nous avons des exemples des personnes qui étaient des administrateurs ou des économes. Nous avons, par exemple, dans le livre de Luc 8, le verset 3, nous avons Jeanne, la femme de Chouza, intendant d'Hérode. Alléluia. Nous avons dans le livre des Actes, chapitre 8, le verset 27, l'eunuque éthiopien, alléluia, qui était administrateur de Candace, reine des Éthiopiens. Alléluia. Et nous avons également dans le livre de Romains, Romains chapitre 16, le verset 23, nous avons Eraste qui l'apôtre Paul va transmettre les salutations d'Eras à l'église de Rome. Et Eras était qui? Il était le trésorier de la ville. Alléluia. Il était le trésorier de la ville. Amen. Donc, nous voyons là que l'intendant, bien-aimé, l'administrateur, l'économe, le dispensateur, c'est un disciple. C'est quelqu'un à qui on a confié quelque chose. Plus simplement. L'administrateur, c'est quelqu'un à qui on a confié quelque chose. Quelqu'un à qui on a confié la gestion de quelque chose. Chacun ici a reçu la gestion de quelque chose. Alors, si tu dis, ah, moi, je suis venu, moi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de compte, chacun de nous rendra compte. Que tu saches ou que tu ne saches pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Parce que tu as reçu quelque chose. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose. Un don, un talent, on ne revient pas sur la parabole des talents. Et donc, le disciple de Christ est essentiellement un intendant à qui a été confié le soin de ce qui lui appartient et ses intérêts sur la terre. Il est donc un administrateur de Dieu. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur crée l'homme, Adam, la Bible dit qu'il va donc, créer le jardin et il va lui donner l'administration et il va lui donner une mission. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Donc, vous voyez que depuis le commencement, l'homme exerce une mission d'intendance. Maintenant, regardez même dans la prière du Seigneur. Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté sur la terre comme elle est faite. Alléluia. Qui établit la volonté de Dieu sur la terre comme elle est au ciel? Qui? C'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Notre mission, c'est que la volonté de Dieu, qui est d'ores et déjà parfaite au ciel, soit parfaite sur la terre. Soit parfaite dans ta famille, soit parfaite dans ton lieu de travail, soit parfaite dans tes relations amicales. Alléluia. Soit parfaite avec tes frères, avec tes sœurs. La volonté de Dieu, nous l'avons vu dans le cours précédent, le disciple et la volonté divine. Alléluia. Amen. Et donc, il est important de comprendre que chacun ici a reçu quelque chose. Si quelqu'un dit qu'il n'a rien reçu, il est un mauvais administrateur. Il est un mauvais administrateur. Rappelez-vous, parmi les gens à qui le roi avait remis des talents, il y a un à qui, le dernier à qui on avait donné un. Lui, il est allé enterrer. Tu es comme si tu dis que tu n'as rien, tu es comme celui-là. Amen. Et quand le mec va venir demander les comptes, il va dire, ah, moi, je savais que tu es un gars méchant. Et tu sèmes, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Voilà ton truc que j'ai déterré, prends. Et le mec va dire, mais tu es mauvais. Tu aurais pu aller déposer même à Freelance Bank ou dans toutes les autres banques là pour que ça me rapporte des intérêts. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es un administrateur. Tu gères des biens. Tu gères des biens. L'administrateur gère ses biens. Il est responsable pour les restes, pour les choses que Dieu lui a confiées pour le temps de son absence. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 au verset 15, l'apôtre Paul dit, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Paul dit cela à Timothée, que je t'envoie ces lettres pour que tu saches comment te comporter. Alors, bien-aimé, il est important de savoir que dans la maison de Dieu, il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de se comporter par rapport à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit amen? Alléluia. Et donc, dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes ont été appelées intendants. Nous avons Éliézer auprès d'Abraham, qui était l'intendant de la maison d'Abraham. C'est lui-même à qui Abraham croyait remettre la succession après sa mort, jusqu'à ce que Dieu lui dit, non, ce n'est pas la bonne personne. tu auras un enfant de toi. Alléluia. Nous avons Joseph lui-même qui était intendant dans la maison de Pharaon. Alléluia. Bien-aimé. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Alors, c'est quoi le but? Quel est le but de l'administration? Quel est le but de l'administration? Quel est le but d'être économe? Quand je parle économe, ne voyez pas que quand on dit tu es très économe, quand on dit de quelqu'un qui est économe, c'est quelqu'un qui se fait les économies. Alléluia. C'est pas ça. Dans nos lycées et collèges, il y avait toujours l'économe, n'est-ce pas? L'économe était celui avec qui on allait payer la scolarité, n'est-ce pas? C'est celui qui gardait les fonds de la scolarité. Du lycée, amen, on appelait là-bas l'économa. Tout le monde allait là-bas s'inscrire, on payait, c'est à l'époque 5 000, après on a augmenté 7 500, et puis aujourd'hui c'est combien? 20 000, ça dépend, vraiment on ne sait plus. Le lycée est devenu cher, cher dans cette saison-ci. Nous, on a fréquenté le lycée, c'était 5 000. Alléluia. Et tu payais même en deux tranches. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Alors, quel est le but? Ou bien, quels sont les buts de l'administration? Premier but, le soin de la création. Alléluia. La création, nous devons le savoir, appartient à Dieu. Et Dieu l'a remis à l'homme. Alléluia. Dieu l'a remis à l'homme. Psaume 24, verset 1. Il dit, à l'éternel et la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Et si vous allez dans Genèse 2, le verset 15, vous voyez l'éternel qui va prendre l'homme et le placer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, nous voyons Dieu lui-même bénit l'homme. Et dit de lui qu'il doit être fécond, qu'il doit multiplier, qu'il doit remplir la terre, qu'il doit l'assujettir et qu'il doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Autrement dit, Dieu donne l'administration de la terre à l'homme. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas le droit d'intervenir sur la terre sans l'aide d'un homme. Même pour que Dieu puisse sauver l'homme, il a utilisé un homme. Hello? Hello? Parce que la terre appartient à l'homme. Aucune force, même les démons, ne peuvent pas opérer sur la terre sans utiliser un corps physique. Amen? Le démon de l'alcoolisme, il a besoin qu'un homme boive. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça t'étonne? Vous avez d'abord un esprit boire lui-même? Non. Le démon de la colère, il a besoin d'un homme pour enrichir sa colère. Le démon de la haine, il a besoin d'un homme pour enrichir sa haine. Le démon de l'impudicité, il a besoin d'un homme qui aille commettre l'impudicité pour pouvoir accroître sa force. Vous voyez? C'est pourquoi l'homme est un réceptacle. Amen. Quand je dis réceptacle, c'est-à-dire c'est une plateforme sur laquelle atterrit la réalité spirituelle. Dieu lui-même, pour sauver l'homme, il est rentré dans le ventre d'une femme, il est devenu homme. C'est bizarre, n'est-ce pas? On se serait attendu que, ok, moi je suis Dieu, je mets les deux pieds sur la terre, je sauve l'humanité. Non! Parce que la terre, Dieu lui-même est soumis aux règles qu'il a établies. Amen. Et lorsque vous allez un peu plus loin avec, nous avons lu ce texte-là, Genèse 32, je crois, là où Jacob combat l'ange. Alléluia. Pourquoi Jacob arrête? Pourquoi la Bible parle d'un homme? La Bible ne dit pas l'ange. La Bible dit un homme. Jacob n'a pas su qu'il a bagarré avec l'ange. Il a su qu'il a bagarré avec un homme. Parce que l'ange avait pris l'apparence d'un homme. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle même Paul nous exhorte à exercer l'hospitalité. Parce que certains anges ont l'apparence physique pour opérer. Ils ont l'apparence physique. Marie a été saluée par un homme. Jean lui-même parle de l'ange, de l'ange Gabriel comme un homme. Ça veut dire que ce sont des entités spirituelles, mais pour pouvoir approcher l'homme, ils ont pris des formes physiques qu'on pouvait toucher. Abraham lui-même a été visité par le Seigneur. Avec qui il a mangé? Pourquoi ils ont mangé en esprit? Alléluia. Ils ont mangé physiquement. Abraham lui-même a dit, Seigneur, permets-moi de te donner de l'eau pour laver les pieds. Ça veut dire qu'il avait des pieds sales. Donc, quelqu'un n'a pas dit amen. Il a beaucoup mangé. Amen. Réfléchissez quand vous lisez votre Bible. Et l'Esprit de Dieu va vous aider à comprendre. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs, ce n'est pas le cadre de notre enseignement ce soir, mais je fais juste un break, pour dire qu'il y a plusieurs dimensions et catégories d'anges. Il y a des anges qui ont une apparence physique. Amen. Quand l'ange a visité Élisabeth, Élisabeth a informé son mari. Son mari va faire une prière, va dire, envoie l'homme de Dieu. Alléluia. Envoie l'homme de Dieu, il n'a pas dit envoie l'ange. Envoie l'homme de Dieu qui a dit à ma femme qu'elle va être enceinte. Et Dieu va envoyer l'ange encore. Mais l'ange va venir physiquement. Et lui dit, écoute, comme tu n'as pas cru, l'ange va le visiter plutôt à l'intérieur du temple. C'est ça, n'est-ce pas? Il va venir sous Émier. Donc, tu n'as pas cru à ce qu'Élisabeth a dit. Ton problème, c'est quoi? Comme tu aimes babader là, on ferme la bouche. Il y a plusieurs personnes ici, bien-aimées, jusqu'à ce que ton miracle s'accomplisse, Dieu va te rendre sous et mieux. Pour ton bien. Parce que tu es bavard. Oh, Dieu m'a dit que. Il dit, fermez sa bouche, je connais la fille ici. C'est pour son mal. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, donc, l'homme a le devoir de prendre soin de ce que Dieu l'a confié, et non de l'épuiser ou de le détruire. Deuxième but de l'administration, le soin de la vie spirituelle des autres. Alléluia. Le soin de la vie spirituelle des autres. Nous venons de lire cela ici dans le livre de Luc 12, le verset 42, dit « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens ?» Alléluia. « Sur ces gens, pour leur donner la nourriture autant convenable. » Oui, bien-aimé, Dieu t'a donné la capacité de donner aux autres. Alléluia. Dieu t'a donné la capacité de prendre soin des autres. Alléluia. C'est pourquoi il t'a donné. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimé. La raison majeure pour laquelle Dieu bénit un homme, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Tu n'as pas dit amen. Écoutez. La raison pour laquelle Dieu te donne, c'est parce qu'il a envie que tu donnes aux autres. Plus tu donneras aux autres, plus Dieu continuera à remplir. Vous savez, la Bible nous dit d'ailleurs qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que c'est un principe spirituel. Dans le monde spirituel, c'est le don qui produit le retour. Mais dans le monde physique, c'est garder qui produit l'épargne. Nous tous, on a un compte, tout le temps pas balancé là-bas. Or, Dieu, son compte bancaire et son compte d'épargne, c'est les hommes. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi Salomon va dire que quoi? Jette ton pain dans les eaux. Tu ne sais par quel moyen cela va revenir. Alléluia. Autrement dit, quand tu donnes aux autres, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour pouvoir te le compenser. Au moment où tu t'attends le moins. Dieu est un bon payeur. Dis avec moi, Dieu est un bon payeur. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être un bon administrateur de ce qu'il te donne. Maintenant, il y a les gens qui croient qu'en donnant à tout le monde, Dieu est content. Il y a des gens à qui Dieu ne t'autorisera pas à donner. Mais parce que tu veux montrer que tu aimes les hommes plus que Dieu, ta provision est maudite. Amen. C'est pourquoi nous devons donner avec beaucoup de discernement une fois de plus. Il y avait une grande famine en Israël, mais Dieu envoie son prophète chez une étrangère, à Sarepta. Amen. Il y avait de la famine. Dieu n'a qu'intervenu dans la vie d'une seule veuve, mais une étrangère. C'est bizarre, n'est-ce pas? Jésus lui-même, il ne donnait pas à manger à tout le monde. Il ne guérissait pas tout le monde. Il vient au milieu de Bethesda. Il choisit un seul gars. Il le guérit. Un gars qui ne veut même pas, qui n'est même pas conscient de la guérison. Veux-tu être guéri? Oh, il a tous les problèmes de la terre. Il accuse tout le quartier, tout le monde, personne ne l'aime. Oh, il y a comme ça dans l'église. Alléluia. Vous allez remarquer que c'est les gens qui s'en foutent du miracle que ça arrive à eux. Les gens qui cherchent le miracle, ça ne vient pas sur eux. Ça les esquive. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut prendre attention. Troisième but de l'administration, la proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile. Oui, bien-aimé, les disciples de Jésus sont les intendants de l'évangile. Tu es un intendant de l'évangile, tu as reçu une parole. Tu as reçu une parole qui a sauvé ta vie. À ton tour, tu dois la donner à d'autres. Amen. Matthieu 21, le verset 33 à 34. Matthieu 21, 33 à 34. La Bible dit, il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'environna d'une clôture et il creusa un pressoir et il bâtit une tour et il la loua à ses cultivateurs et s'en alla. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir quoi? Ses fruits. Vous voyez? Ses fruits, un maître des maisons. Dieu fait sa semence, fait son champ. Il arrange très bien. Il confie à toi, disciple, que bon, veille sur ça. Ton rôle, c'est de veiller. Tu trouves que non, tu dois remettre des règles à gauche, tu dois mettre, même c'est ta part. Alléluia. Quand le moment vient de rendre compte, tu trouves que personne n'a à me poser des questions. Moi, Dieu, j'attends Dieu ici. Lui-même, je vais lui parler face à face. Oui, on a beaucoup de frères aujourd'hui dans l'église qui ont des difficultés d'obéissance. Quand tu le reprends sur une tâche que tu l'as confiée, il trouve que non. Il trouve que non. Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Tu lui as manqué de respect. Bien-aimé. Paul voit les serviteurs de Dieu comme des administrateurs des mystères de Dieu. Des mystères de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Dans la version Semeur, l'apôtre Paul dit que quoi? 1 Corinthiens 3, 5. Il dit, après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confié. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des fan clubs dans nos églises. C'est très compliqué. Fan clubs. On a plus de fan clubs que des disciples de Jésus. Alléluia. Le pasteur est devenu l'arrêt bus au lieu d'être le panneau de signalisation. Alléluia. L'arrêt bus, il dit, c'est ici. Si vous ne croyez pas en moi, vous êtes mort. Vous n'aurez pas de place en enfer, au paradis. Alléluia. Le passé est devenu l'arrêt bus. L'arrêt bus, c'est que quoi? C'est ton dernier bus. C'est fini. Ta vie est dans tes mains. Oh, Dieu a appelé chaque serviteur de Dieu à être un panneau de signalisation pour conduire le chrétien vers Christ. C'est pas ici. Voici le chemin. Va à gauche, va à droite. Monte, tu auras des obstacles sur le chemin. Vous voyez, quand vous roulez, il y a des panneaux qui te montrent des sillons comme ça pour montrer qu'il y a d'autres dents devant. C'est pas ça? Il y a deux dents devant. Donc, arrête, commence à régresser en vitesse. Ça me rappelle un témoignage, une histoire que c'est Pajot qui m'a raconté ça. Pajot a souvent de ces histoires étranges. Il dit que c'est un monsieur qui voyageait, ils étaient sur la route, ils voyageaient. Le gars ne faisait que rouler vite. Et l'autre roulait. Prenant le chemin, lui, peut-être il connaissait pas, peut-être il connaissait, mais il voulait rouler vite, il voulait tellement vite que l'autre le dépasse. Ça le chauffe dans la tête, mais qui regarde sa voiture, il roule encore vite. Et l'autre savait qu'il y avait d'autres dents devant. Il a régressé. Il est passé en le regardant en souriant. Il n'a pas regardé le dos d'âne qui était devant. Il a volé en plein air. Quand il a atterri, l'autre est passé tranquillement. Il a dit, passe devant, montre-moi le chemin. Alléluia. Vous voyez, il n'a pas tenu compte des panneaux de signalisation. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aussi, quand ils ne tiennent pas compte des instructions que des pasteurs leur donnent sur le chemin de leur vie, ils rencontrent des catastrophes comme ça. Mais un pasteur n'a pas le droit d'être un arrêt bus. Jésus est l'arrêt bus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Vous voyez? Des administrateurs des mystères de Dieu. Quand on parle des mystères, on parle de quelque chose qui n'est pas dévoilé. On parle des choses qui sont pour les initiés. Alléluia! Il y a des choses, il y a des secrets que Dieu donne à chaque serviteur de Dieu qui n'est pas accessible à tout le monde. Amen. Il n'est pas accessible à tout le monde. Un jour, je lisais l'histoire d'Élisée avec Géasi. J'ai rigolé. Alléluia. C'est un type, tu vis avec un gars qui n'est pas normal. Alléluia. Qui voit les anges tout le temps. Qui arrête la pluie pendant 3 ans. Qui commande aux éléments de la nature. Qui ressuscite les morts. Il n'est pas normal. Pour vous dire que le cœur de l'homme est mauvais, je vous assure, quel que soit le niveau d'onction sur lequel tu peux être, celui qui te suit peut te tromper. Celui qui te suit peut te manipuler. C'est un roi chapitre 5. La Bible dit qu'un lépreux vient demander la guérison. Élisée ne sort pas de la case. Élisée dit, va te laver. Il dit à Géasi, dis-lui qu'il a se laver. Le gars se vexe, il part, son serviteur l'aide à digérer. Il revient, il plonge dans l'eau. Cinq fois, pas qu'il est plus. Il revient, dit, ah, pardon, prends mon petit don si. Il dit que non, je ne peux pas prendre le don. Va avec. Il dit, ok, je te demande une seule faveur. Le roi sur qui je suis adore sur son hôtel un démon. Chaque fois que je vais aller l'accompagner et que je vais me prosterner là-bas, pardon, sache que c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Va, je connais ton cœur. Il a dit, voilà mon opportunité pour être milliardaire. Mais s'il n'aime pas l'argent, il le suit. Bien aimé, il y a des gens, c'est pourquoi quand tu marches à côté d'un homme de Dieu, fais attention. Amen. Il peut sembler être normal, mais il n'est pas normal. Alléluia. À des moments, il est normal, à des moments, il n'est plus normal. À des moments, il est là, à des moments, il n'est pas là. À des moments, il est ton mari, à des moments, il n'est plus ton mari. À des moments, il est ton frère en Christ. À un moment, il n'est plus ton frère en Christ. Amen. Alors, il prend les ronds, il trompe le gars. Il lui dit, non, le prophète a dit, tu lui files les ronds, ça va, tout va bien. Il dit, bon, je vais même ajouter, non, laisse comme ça, la quantité, si est bon. Pas. Il part. Et le prophète, il arrive, le prophète dit, ok, mon fils, j'ai un peu tourné là en rond, je ne t'ai pas trouvé. Tu étais où, non? Ah, papa, j'étais dans le coin. Il dit, mais ton histoire est compliquée. Comment tu étais dans le coin? Et si tu sais que mon esprit ne t'a pas quitté, il n'a pas dit l'esprit de Dieu ne t'a quitté. Amen. Il faut comprendre cela. Quand tu fonctionnes à côté d'un homme de Dieu, l'esprit qui est sur lui te suit. L'esprit qui est sur lui te suit. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. Et le matin, là, je priais et le Seigneur me donne une vision. Je vois quelqu'un qui lève les aisselles comme ça. Je vois un abcès. C'est tout ce que Dieu me montre. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pars à l'église. On m'avait invité à un ministère. J'ai cherché les grandes révélations. Alléluia! L'abcès, c'est la révélation, frère. J'arrive à l'église, je rends ministère. Je prie. J'attends que Dieu me donne les grandes révélations qui me parlent. Rien ne vient. Tout ce qui venait, c'était l'abcès. C'était l'abcès. Bien-aimé. Il ne faut pas voir ce que Dieu te montre, tu trouves que ce n'est pas correct. Oh. Pierre a fait l'expérience là. Que ne juge pas mauvais ce que j'ai jugé bon. Mais, un moment, j'ai ramassé ça. Après, il dit que bon, je vais lancer ça aussi comme ça. Et il y a quelqu'un ici qui a un problème avec l'abcès à l'épaule, aux aisselles. Viens, Dieu veut te délivrer. La dame s'est levée. Elle a pleuré. Il dit que pour l'abcès, tu pleures. Mais c'était un truc qui l'avait paralysé le bras. Et c'est comme ça qu'en obéissant à cette directive-là, les révélations sont venues pour plusieurs autres personnes dans la salle. Instantanément. C'était le début. Dieu me montrait le début de la révélation. Que voilà, si tu obéis à cette voie, les autres vont arriver. Mais si tu cherches ta part, tu fais ta part. Ça va arriver, Dieu te demande juste une couleur de vêtements. Tu arrives, tu rentres dans une tête, tu dis, ah, couleur de vêtements, là, c'est nous, quoi. Continue à méditer dessus. Médite. Ne trouve pas fou les choses de Dieu. Parce que Dieu dit les choses folles pour confondre les sages. Amen. Et la dame a rendu un témoignage terrible sur cette histoire d'abcès, là. Que moi, j'avais pris pour des conneries. Alléluia. Que j'avais pris pour des conneries. Un jour, là, j'étais en Allemagne. Dieu me montre les parties intimes d'un homme. C'est quoi ça? Alléluia. C'était 5 heures, je roule sur le lit comme ça. Je vois les parties intimes. Un homme vient, il me montre ses parties intimes. Il balance ça devant moi. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, Sang de Jésus. C'est pour vous dire que si tu n'es pas, écoutez, vous pouvez fonctionner dans la révélation, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas courageux pour observer certaines choses, et aller au-delà de l'aspect physique, de ce que vos yeux voient, aller au-delà, chercher la pensée de Dieu, vous n'allez aller nulle part. Et je suis resté là sur cette révélation. J'ai commencé à méditer. Et pendant que j'étais allongé dans ces mi-éveillé, mi-endormi, j'entends quelqu'un qui marche dans la chambre. Tac, 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 tac. Après, il s'assoit sur le lit. Sur le lit, il me dit, ça va? Je dis, ça va. Je suis endormi, hein? Il dit, ça va? Je dis, ça va. Il dit, ok, aujourd'hui, tu vas rencontrer un homme. Il faudra prier pour lui. Il a des problèmes de procréation. Tu as compris? J'ai dit, ok, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Il dit, d'accord, à plus tard. Tap, 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 il repart. Je suis sort. Je cours au salon, je dis, mais qui est entré ici? Le frère dit, personne. Il dit, mais quelqu'un est entré, tu ne m'as pas parlé comme ça. Il dit, non. Et pour le programme où j'étais invité, un monsieur d'une autre ville, un Allemand, il avait sponsorisé l'événement de 1 000 euros. Et il avait tenu à être là. Et il était leader dans un mouvement de guérison qu'on appelle les healing rooms. Les healing rooms, ce sont des maisons de prière où on prie uniquement pour la guérison physique. Donc, quand tu entres là-bas, si tu ne guéris pas, tu ne te laisses pas. Alléluia. Toutes sortes de maladies. Lui, il est le leader, mais lui-même est malade. Jesus. J'arrive à la conférence, je rends ministère, je prêche. Et le monsieur, il dansait. Il dansait avec sa bannière. Il levait sa bannière, il dansait avec. Il s'attirait tout mon attention. Je dis, mais ça, c'est qui danse comme ça devant les yeux? Et plus je m'intéressais à sa bannière, à un moment, j'entends l'Esprit de Dieu dire, va vers cet homme, prie. C'est de lui que je t'ai parlé. Je vais vers cet homme, je dis, bonjour, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oui. Je dis, le Seigneur dit qu'il va te donner des enfants. Il dit, amen. Des enfants spirituels. Je dis non. Oui. Il avait épousé une femme qui avait déjà des enfants. Il lui a dit, je ne peux pas te donner des enfants. Alors, marions-nous, tu as tes enfants, donc ne m'en demande pas. Je vais servir mon Dieu. Et lui servait Dieu, et sa femme, sa soeur était dans les fétiches, vous savez, les blancs qui font quoi les fétiches, c'est encore plus dangereux que pour vous. Sa femme faisait la magie noire. Sa fille, sa soeur plutôt, faisait la magie noire. Amen. Et donc, j'ai parlé à l'oreille du frère qui interprétait, j'ai dit, voilà, le frère lui a dit, il dit, oh. J'ai dit, à la fin, on va en parler. À la fin, il a pleuré. Il m'a dit, personne ne savait cette histoire. Personne. Chaque jour, je vais à la prière. Je prie pour les guérisons, pour les autres, en espérant que Jésus va intervenir pour moi. Il dit, Jésus intervient ta part maintenant. Il a fait débarquer un noir pour toi. Alléluia. C'est un noir qui va te guérir. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas noir. Quand il dit noir, ce n'est pas une insulte. Amen. Mais le Seigneur a intervenu dans la vie de cet homme. Et le deuxième jour, il a pris rendez-vous. Il a dit qu'il veut me voir. J'ai dit, oui, je veux te voir. Il m'a dit, j'aime ta foi. J'aime la puissance de Dieu dans ta vie. Il dit, il m'appelle man of fire. Man of fire. C'est des man of fire. Dis donc, j'ai cherché encore le feu, pardon. Alléluia. Mais j'étais administrateur de quelque chose. Jésus m'a donné quelque chose. J'administre. Alors, si Jésus te donne quelque chose, tu mets les conditions pour administrer. Tu réduis la capacité de ce qu'il t'a donné. Amen. 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 Tu réduis. Un jour, le feu prophète disait ça à une femme, que quand j'administre la guérison dans ta vie, je suis plus béni que toi. La dame est tombée à genoux, elle a commencé. La dame s'est mis à genoux, commencé à bénir Dieu. Lui, il s'est couché. La dame dit, ah! Il dit, pourquoi toi, tu t'es mis à genoux devant moi d'abord? Je suis Dieu, c'est Dieu qui t'a guéri, c'est pas moi. Amen. Il lui a dit que non, j'administre la guérison, mais je suis plus béni que toi. Je suis plus béni que toi parce que Dieu accroît mon don. Amen. Dieu accroît mon don. Et ça, on peut avancer. Alors, c'est pourquoi faites du bien. Amen. Ne mettez pas de conditions sur ce que Dieu vous a donné. Si Dieu t'a donné 2 pagnes, donne à l'autre un pagne. Dieu rajoutera tes 1 pagne, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Ne dis pas, ah, moi, j'ai souffert pour avoir ça. C'est quoi, c'est ça, quoi, c'est qu'on hérite ça. Alléluia. Ça, c'est la chicheté. Il y a ton voisin, la chicheté. Alléluia. Et Dieu est les chiches. Dieu est les chiches. Les personnes chiches. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Un bon administrateur donne à ceux vers qui Dieu l'a envoyé. Il ne donne pas à tout le monde. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Même Jésus a dit à cette Syro-Phénicienne que la nourriture des enfants n'est pas pour les chiens. Alléluia. Et la femme a compris, elle n'a pas interprété ça comme une insulte. Elle a dit, mais Seigneur, même les chiens se nourrissent de la table de leur maître. Autrement dit, ok, ce qui est sur la table, c'est pour les enfants, d'accord. Pardon, permets-moi alors de manger ce qui est à terre. Je mange les miettes. Jésus dit, ok, ta place est là, mange les miettes. Amen. Amen. De Corinthiens 5, le verset 18 à 20. Il dit, toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de le ministère de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Un autre but de l'administration, les dons de grâce. Alléluia. Les dons de grâce. Oui, bien-aimés. Pour Pierre, tous les chrétiens sont des intendants de la grâce de Dieu. Des intendants de la grâce de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Il dit, suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. Vous voyez, chacun de vous a reçu quelque chose. Alléluia. Chacun de vous a reçu quelque chose. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Vous voyez, il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu, le don qu'il a reçu, le don qu'il a reçu. Alléluia. Quel est le don que tu as reçu? Quel don as-tu reçu? Quel don as-tu reçu? Dieu t'a donné un don, mais tu mets les conditions sur ça. Tu mets même les conditions à Dieu. Seigneur, pardon, il faut d'abord que tu aies mon emploi du temps pour que j'aille laver l'église. Jesus. Même Dieu doit payer pour que tu sois dans sa maison, pour que tu viennes jouer aux instruments. Dieu doit payer pour que tu aies le temps de venir ranger les chaises à l'église. Dieu doit payer, Dieu doit s'arranger pour te permettre d'avoir un emploi du temps cohérent pour pouvoir être là pour lui. C'est ça, n'est-ce pas? Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Quelqu'un te donne sa chose, il devient esclave sur sa chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il devient esclave sur sa chose. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 Corinthiens 3, le verset 5. 1 Corinthiens 3, le verset 5. Permettez. 3, le verset 5. Voilà. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alors, tu es un dispensateur des grâces, des dons de Dieu. Des dons de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ont reçu des dons, mais ne font rien avec. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent leur temps pour faire. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent de se sentir à l'aise pour le faire. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent quand ils vont d'abord voyager pour le faire. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent de se marier pour le faire. D'autres, beaucoup ont reçu des dons, mais attendent d'avoir des enfants pour le faire. Alléluia. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent d'avoir assez d'argent pour le faire. Beaucoup ont reçu des dons, mais attendent d'avoir du temps pour le faire. Alléluia. Pour le faire. C'est pourquoi l'Église souffre aujourd'hui. Parce que les gens ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Les gens ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire. Au moment où il faut le faire. Alléluia. Chacun veut le faire selon son timing. Au moment où ça l'arrange. Alléluia. Hier, je suis allé saluer une de mes amies avec qui on a été au collège. C'était mon responsable de prière du groupe biblique. Je suis allé marier. Et j'étais chez elle hier. Et quand elle m'accueille, je dis, oh, mon respo. Mais tu nous as chauffé pour la méditation. Hein. Elle ne blaguait pas. Jesus. Une petite fille comme ça, mais solide. Il fallait méditer. Tu ne pouvais pas diriger un temps de prière si tu n'avais pas médité un certain nombre de livres. Alléluia. Elle a épousé son mari. Il travaille dans un site de la place. Et lui-même, il est pasteur. Mais dans leur église, c'est un peu ça. Ils ont une église. Vous allez voir ça un peu dans la ville. Dans cette église, ils n'ont pas de pasteur. Ils n'ont pas de nom. Ils disent c'est l'assemblée des frères. Alléluia. Qui a déjà entendu parler d'une église comme ça, voilà. Il n'y a pas de pasteur, donc. On dit, si vous arrivez à l'église, celui qui est inspiré par un cantique, il donne le cantique, on chante. Celui qui est inspiré par une exhortation, il donne l'exhortation, on exhorte. Celui qui est inspiré, alléluia. Voilà l'église. Or, là où elle est née spirituellement, on ne fonctionnait pas comme ça. Il dit, à l'époque, quand elle a connu celui qui est devenu son mari, nous tous, on était choqués. Mon frère, ma soeur, nous tous, on a grandi là où il y a le pasteur. Toi, tu parles là où il n'y a pas pasteur, c'est encore quoi cette fois-là? Alléluia! Le mariage amène les gens partout, hein? Jesus! Alléluia! Mais le plus important, c'est quoi? Et je lui posais la question parce qu'elle avait une voix extraordinaire. Et à cette époque, elle était dans le groupe biblique, elle faisait partie des chanteurs. Je lui dis, mais tu ne chantes plus? Elle dit que non, chez nous, on ne chante pas, je ne chante qu'à la maison. On ne chante pas comment? Elle dit, non, les chansons qu'on chante là, nous te louons, les jours qu'elle chantait, on se chante de victoire seulement maintenant. Les ailes de la foi, c'est que ça. Alléluia. Donc, si ce n'est pas dans chant de victoire, si ce n'est pas dans... On ne chante pas. Donc, chacun ses règles. Chacun son don. Quel est le don que tu as reçu? Quel est le don que tu as reçu? Romains 12. Romains 12. Le verset 6 et le verset 7. Regardez ce que Paul dit. Non, prenons à partir du verset 6. Voilà, le verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, amen, des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Alors, Dieu t'a donné, a fait de toi un administrateur des dons de grâce que tu as reçus. Il t'a donné des dons. Les talents peuvent être compris comme des dons en exercice qui doivent porter des fruits. Alléluia. Qui doivent porter des fruits. Matthieu 25, le verset 14 à 15. On y parle là de cet homme qui va aller en voyage et qui va appeler ses serviteurs et leur remettre ses biens. À un, au premier, il va donner 5 talents. Au deuxième, il va donner 2. Au troisième, il va donner 1 talent. À chacun selon sa propre capacité. Dieu ne te donnera jamais les dons qui va te dépasser. Alléluia. Et du coup, si toi, ta part c'est seulement exhorter, que pour l'autre c'est la vision, ne l'envie pas. Tu ne peux pas porter la vision là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et la personne ne peut pas faire l'exhortation comme toi. Amen. Donc chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Et le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que personne ne connaît où est sa part de couloir. Tout le monde veut travailler dans tous les couloirs. Tout le monde veut faire tout. Tout le monde veut être omnipraticien. Alléluia. Omnipraticien. Omni, il fait tout, 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 tout. Bien-aimé, le meilleur moyen de servir Dieu, c'est de connaître le don que tu as. Si tu ne le connais pas, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre beaucoup de temps. Parce que quand tu connais le don que tu as reçu, tu l'administres clairement. 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 Alléluia. Tu l'administres clairement. Samson connaissait son don. Il connaissait son don, c'était dans sa force physique. Alléluia. C'était dans sa force physique. C'est pourquoi quand il donne son secret à Delila, c'est la fin. Ça annule tout. Samson avait deux capacités importantes. Deux. Et lorsque l'ennemi va le prendre, l'ennemi va attaquer, va détruire les deux capacités. Sa vue et ses cheveux. Amen. Sa vue et ses cheveux. C'est pourquoi quand on a coupé ses cheveux, on lui a crevé les yeux. Alléluia. On lui a crevé les yeux. Quels sont tes dons? Il ne suffit pas de dire, mon don c'est. Comment on va savoir que tu as un don? C'est seulement lorsque tu vas l'exercer. On connaît un maçon à quel moment? Quand il bâtit le mur. Hein? Sinon, tout le monde va dire, je suis maçon. Amen. On connaît un électricien quand il fait un bon branchement, n'est-ce pas, et que ça ne frappe personne à la maison. Alléluia. Ce n'est pas les électriciens qui viennent te mettre, tout le monde danse comme les pauvres qu'on a à la maison. Parce que les branchements, ça éclate dans toute la maison. Alléluia. On connaît un plombier quand il fait un bon branchement d'eau. Mais quand après deux jours, quand un mauvais plombier va d'abord t'acheter un mauvais matériel. Parce qu'il veut gagner. Ça, c'est un mauvais technicien. Alors, toi, ton don, c'est quoi? Ma fille, je dis, Dani, ton don, c'est quoi? Tu vois, comment tu vas pouvoir administrer, amen, avec efficacité et demain rendre compte à Dieu? Personne n'est là pour se balader à l'église. Personne. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour qu'on fasse l'embouteillage de nos côtes ici. Non. On se tamponne. Tu es là. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Mais si chacun connaît son don, il n'y aura pas l'embouton ne va pas se tamponner. Mais chaque jour, quand on ne connaît pas nos dons, on se tamponne. Tu fais quoi ici? C'était ma place. Je suis arrivé avant toi. Et ça devient les rivalités. Mais si je connais ma place, je ne t'envie pas. Je reste dans mon couloir. Je développe mon don. Je développe ma capacité et je le mets au service de l'Église. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur parle des dons qu'il a libérés quand il est monté. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Et il dit que tout cela est pourquoi le perfectionnement des saints bien-aimés. Ton don, c'est pour parfaire l'autre. Si à côté de toi, ton frère reste toujours imparfait, tu as un problème. Est-ce que je peux avancer? J'avance. Ça chauffe, hein? Alléluia. Oui. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont bon cœur, ils ont le don de libéralité. Il est gentil. Oh non, du coup, le pasteur dit non, toi, tu as le don de libéralité. Parce que chaque fois, il faraude le pasteur. Amen. Est-ce que je peux vous étonner? Ceux qui ont le don de libéralité ont généralement non pas. C'est qu'ils ont ce dernier franc qu'ils donnent. La veuve qui a donné la caisse. Regardez, pendant tout le ministère de Jésus, hein, il n'avait jamais regardé les offrandes. C'est la seule fois dans l'Écriture où Jésus allait regarder dans l'offrande, dans le panier. Et quand il regarde les gros jetons. Il cherche la pièce. Et qui a donné ça? On dit, c'est lui. Elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout son cœur. Le don de libéralité, c'est le don de soi. Amen. Alors, si tu attends que tu auras beaucoup pour donner, tu ne peux pas opérer dans ce don. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. 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 Je sens que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Quel don as-tu reçu? Quel don as-tu reçu? Quel don as-tu reçu? Notre but de l'administration, bien-aimé, ce sont les biens matériels. Oui, les biens matériels. Les biens matériels qui sont aussi l'expression de la bonté de Dieu. Amen. Qui sont aussi l'expression de la bonté de Dieu. L'homme n'est pas le propriétaire des biens matériels. Dieu en est le propriétaire. Agée 2, le verset 8, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dans l'église primitive, acte chapitre 4, le verset 32, on dit, nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Alléluia. Parce que tout appartenait à tout le monde. Hébreux chapitre 13, le verset 7, la Bible nous demande de ne pas oublier d'exercer la bienfaisance et de faire part de nos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte-ci. Hébreux 13, 16. Vous voyez? Un pasteur disait, vous n'aimez pas donner la dîme. Il n'y a pas de problème. 10%, d'accord. Mais quand vous lisez ce texte, vous réalisez que l'apôtre Paul dit que nous devons faire part de tous nos biens à nos enseignants. Celui qui t'enseigne, tu dois lui faire part de tous tes biens. C'est-à-dire que ce n'est même plus 10%, hein. Tu présentes tout ton salaire, il décide de comment ça va fonctionner. Qui ici peut venir avec son salaire, voir le pasteur, dit décide, pasteur. Papa décide, dis-moi ce que tu donne-moi la part qui me revient, le reste tu fais avec. Vous voyez dans les visages. Vous voyez. C'est ça aussi qui a fait, à un certain moment, la force d'une des congrégations qu'on a connues dans ce pays, la CMCI. Alléluia. Ils avaient ce qu'on appelait des faiseurs de disciples. Les faiseurs de disciples, à ton faiseur de disciples, tu devais rendre compte de toute ta vie. Ton salaire, ce que tu manges, comment tu t'habilles, il décide de comment ta vie doit être. Et jusqu'aujourd'hui, les faiseurs de disciples là-bas. Alléluia. Et il s'appuyait donc sur ce texte-ci pour enseigner ça au peuple de Dieu là-bas. Amen. Ce n'est pas mauvais en soi. Hein? C'est une manière de discipliner les chrétiens. Sinon, ils vont aller au champ. Alléluia. Et que viens avec ton salaire là, tu vas dire, papa, pardon. Attends dans 2 mois. Tu vas me renvoyer même dans 6 mois. Alléluia. Après, tu disparais de l'église. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, le verset 1 et 2. OK. Le verset 1 et 2. Alors, il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ha! Qu'est-ce qui a produit des riches libéralités? Leur joie et leur pauvreté profonde. Okay. Comment la pauvreté profonde peut produire des riches libéralités? C'est-à-dire, ils ont plus donné quand ils n'avaient pas que lorsqu'ils en avaient. C'est pourquoi je vous ai dit que le don des libéralités, ce n'est pas quand tu as beaucoup, c'est quand tu n'as que ce qui te reste et que tu le donnes au Seigneur. Tu le donnes dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un frère en Christ. Tu soutiens la vie de quelqu'un à côté de toi. Poup! Dieu se souvient de toi. Alléluia. Un autre but de l'administration, notre corps. Alléluia. Notre corps. Oui, bien-aimé. L'homme en tant que créature appartient à Dieu. Alléluia. Bien que les incrédules ne reconnaissent pas qu'ils appartiennent à Dieu, pour le croyant, il doit être clair que son corps est à son Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 6, le verset 19 au verset 20. Le verset 19 au verset 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas. Aujourd'hui, on entend des langages des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui peuvent dire, ah, mon corps m'appartient, fais de mon corps ce que je veux. Non, ça ne t'appartient pas. Tu as créé quelque chose. Quelque chose t'appartient quand tu en es le fabricant. Amen. Qui ici a fabriqué son corps? Alors, si tu prends ton corps, tu commences à dessiner les serpents dessus. Sache que demain, le propriétaire de ça va te demander que le serpent, si c'est moi qui avais dit que tu mets dessus. Amen. Alléluia. Si tu prends le corps, si tu déchires, tu mets les trucs, tu mets les boucles à gauche, à droite, à gauche. Demain, le propriétaire va dire boucle si. J'étais donné propre. Toi, tu as mis les boucles partout, tu es le bouc. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être conséquents. Et l'apôtre Paul va même plus loin dans Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Amen. Donc, Dieu t'exhorte à présenter ton corps. Dis avec moi, mon corps. Ne prends pas ton corps, tu fais les choses avec. Tu prends le corps que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas danser dans les endroits bizarres. Tu prends le corps que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas t'asseoir dans les endroits de commérages. Après, tu dis, c'est mon corps, tu as fabriqué quelque chose. Tu as fabriqué, c'est ta part. Tu sais même d'où ça vient. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des jeunes. Aujourd'hui, tu prends ton corps. Tu peux donner à tous les hommes. Tu vas payer, tu vas rendre compte. Amen. Parce que ce n'est pas ton corps. Le propriétaire, le moment venu, va dire, viens rendre compte ce que je t'ai donné. Donc, sache que tu es administrateur de ton corps. Amen. Tu es administrateur de ton corps. Ne blague pas avec ton corps. Ne blague pas avec ton corps. Alléluia. Ne blague pas avec ton corps. Que ce soit ce que tu manges, que ce soit ce que tu bois, que tout cela soit fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Alléluia. Bien-aimé. C'est très important. Un autre but de l'administration, notre maison. Amen. Notre maison, oui, bien-aimé. Ta maison, elle, ce que Dieu t'a donné et tu dois en prendre soin. Alléluia. Acte 16, le verset 15. Et après qu'elle eut été baptisée ainsi que sa maison, elle nous pria disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y contraignit. Vous voyez? Romains 12, le verset 13 à 14. La Bible nous demande de subvenir aux nécessités des saints et nous appliquant à l'hospitalité. Alléluia. Bien-aimé. Ta maison. Ta maison, ce n'est pas, quand on parle de maison ici, ce n'est pas simplement un bâtiment. Amen. Ce sont les personnes qui sont sous ta charge. Amen. Ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, alléluia. Tes neveux, tout ça, c'est ta maison. Alléluia. Tout ça, c'est ta maison. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, l'ange va dire à le Seigneur, la Bible dit dans Acte 10, il dit, crois toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois et ta famille. C'est très important, mes bien-aimés. Nous avons la responsabilité. En tant que maman, tu as la responsabilité de discipliner ton enfant selon le Seigneur. Alors, si tu vois ton enfant se comporter n'importe comment, tu n'acclames pas. Amen. Si tu t'assois, tu dis, ah, c'est comme ça, ah, chacun vit sa vie. Demain, Dieu va te demander les comptes. Pourquoi as-tu laissé cet enfant se comporter comme ça? Et tu es rester sans rien dire. Rappelez-vous, Dieu a jugé un homme parce qu'il n'a pas rendu, il n'a pas sermonné ses enfants et glorifié Dieu dans ce qu'il a fait. Amen. Il s'appelait Élie. De son vivant, ses enfants allaient pointer dans le repas sacré. Élie ne disait rien. Ah, Dieu vous jugera. Bien-aimé, ce qui est ta responsabilité, Dieu ne le fera jamais. Ta responsabilité, c'est de discipliner tes enfants. Ta responsabilité, c'est d'encadrer tes enfants. Écoutez, Dieu n'aura jamais de problème avec un parent qui fouette son enfant parce qu'elle s'est mal comportée. Amen. Mais Dieu aura un problème avec une maman ou un papa qui laisse faire l'enfant en se disant que la vie va l'éduquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as une responsabilité. Peut-être aujourd'hui, l'enfant ne comprendra pas. C'est toujours, c'est la norme. Amen. Je voudrais encourager les parents. C'est la norme. Mais ce qui est droit, fais-le. Devant le Seigneur, rends justice. Devant Jésus, tu seras pur. Et son sang ne retombera pas sur ta tête. Parce que tu as fait tout ce que tu as fait. Amen. Et le moment venu, si cette personne persiste, elle rencontrera le Seigneur. Et lui brisera les jambes. Il brisera sa vie. Jusqu'à ce qu'elle rentre dans le moule. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec Jacob. Éducation mal faite. L'enfant de maman. L'enfant de maman. Lui, il était qu'à la cuisine. Alléluia. Voilà une famille bizarre. Hein? Chacun avait son enfant dans la maison. Amen. On ne l'a pas éduqué. On l'a enseigné même à voler. Sa mère l'a aidé. Il a dit à sa mère que, maman, si papa se rend compte, la malédiction, ça m'a dit, laisse ça, ça va tomber sur moi, toi, va. Alléluia. Voyez les mamans comment elles ont le gros cœur. Quand une maman veut quelque chose, elle dit pas, la malédiction pour moi, toi, tu es libre. Mais ça l'a pris. Jusqu'au moment où il a bagarré avec l'ange, qu'il a compris que l'affaire là, on l'avait mal conseillé. Alléluia. Et sa mère, Rebecca, Rebecca est morte prématurément. Vous savez pourquoi? À cause de la douleur de voir ses enfants éloignés l'un de l'autre. Et la Bible dit qu'elle est morte rapidement. Pourquoi encore? Parce que Esaü est allé prendre des femmes étrangères. Il a fait ça pour punir ses parents. Amen. Regardez. On est élevé rebelle. Aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu vas élever des rebelles. Demain, tes propres enfants vont te juger et tu vas aller prématurément dans la tombe. Alors, fais ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Fais ce que tu as fait. Je connais un de mes papas, lui fait dans les camps de jeunes depuis longtemps. Un jour, il y avait réunion, on est allé à la réunion. Il a commencé à gronder les parents qui étaient venus avec les enfants. Il dit, ne nous envoyez plus les enfants qui vous ont dépassé. C'est comment? Vous refusez de gronder, de fouetter vos enfants chez vous. Vous voulez que nous on les fouette au camp? Je vous ai dit que, bien aimé, le camp, si qu'on était, demandez à Pierre, le gars qu'on a renvoyé, le jeune qu'on a renvoyé au camp, c'était le deuxième jour. Mais il a failli nous taper. Quand on lui a donné la parole, il s'est levé. Il nous a dit que vous ne connaissez rien. Moi, je connais plus que vous. Je connais là où vous voulez m'amener. Je ne marche pas dans votre règle. Dieu est plus grand que vous. On a dit, papa, Dieu est plus grand. Pardon, porte ton sac. Hein. Tu pars chercher ta part de Dieu. Notre camp, c'est le camp. On l'a mis au jeu parce que s'il restait dans le camp, il devait empoisonner les autres enfants. Et à la fin, on devait avoir des rebelles. Ils ont voulu, nous on a d'abord pris la décision de l'exclure. Et ils ont dit que non, les papas, pardon, écoutons-le quand même, donnons-lui l'opportunité de s'expliquer. On a eu réunion jusqu'à 23 heures. On a envoyé Pierre, que va chercher ton élément. Et aller au dortoir le récupérer. Il fallait voir comment il a vu. Il dit never! Never! C'est-à-dire que le mercure n'était même pas descendu. Il était même encore plus nerveux que le. En après-midi, quand. Il fait que vous êtes quoi? Quand on l'a fait asseoir, il s'assoit. Quand on lui donne la parole, il sourit. Un sourire n'a quoi pour se moquer de nous. On a compris que celui-ci, Satan avait appris son cœur. Et quand il est parti, son frère jumeau l'a suivi. Son frère jumeau qui était cool, qui joue aux instruments, à la batterie, l'a suivi. La vie est, si tu crois que par vous êtes jumeaux, tu dois suivre l'autre, tu vas aller en enfer. C'est en enfer que tu vas atterrir. Et quand tu vas atterrir, tu vas dire, mon frère, tu m'as amené où? Amen. Chacun est venu pour sa part, même si vous êtes jumeaux. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Un autre but de l'administration. Est-ce que quelqu'un est béni? Notre temps. Ah oui, notre temps. Notre temps. Bien aimé. Le temps que tu as là, La Bible nous dit même de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Mais quand on dit racheter, ça veut dire que le champ, tu as vendu ton temps à quelqu'un. Est-ce que je peux expliquer? Quand la Bible dit racheter le temps, ça veut dire que le temps que tu rachètes, là, c'est un temps que tu aurais dû utiliser à faire autre chose. Tu ne l'as pas fait et quelqu'un l'a racheté gratuitement. Et maintenant, il te le revend. Amen. Et tu te retrouves acculé par le temps. Acte 17, le verset 25 au verset 27. 17, 25 à 27. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Vous voyez, Dieu a déterminé quoi? La durée des temps de chacun. Chacun a un temps pendant lequel il doit œuvrer sur la terre. Alors, tu n'as pas beaucoup de temps. Peut-être tu crois que tu es jeune, tu as la force. Non, j'ai le temps. Non, non, non. Un homme sage a dit que au moment où tu nais, tu es déjà assez vieux pour mourir. Amen. Les enfants qui naissent et qui meurent le même jour là, vous croyez qu'il n'est pas déjà vieux? Vous croyez qu'il ne rendra pas compte à Dieu? Amen. Il y a des gens qu'ils sont venus sur la terre pour ne vivre qu'un seul jour. Jean-Baptiste n'a vécu son ministère qu'une seule année. Toi, tu es pasteur aujourd'hui, tu veux rester éternellement. Hein? Jésus n'a fait que 3 ans. Donc, vous voyez que ce n'est pas la longueur du temps qui est important, mais c'est l'impact pendant le temps qui t'est accordé qui compte. L'impact pendant le temps qui t'est accordé. Qu'est-ce que tu fais du temps qu'on te donne? Ce temps, si tu es supposé étudier, tu dis non, je n'étudie pas. Je n'étudie pas. Je suis intelligent. Je vais aller voir à gauche, je vais aller voir à droite. Comme mes 5 sont déjà sortis, tout le monde doit savoir que j'ai les 5. OK, il n'y a pas de problème. Quand le temps de l'école va passer, tu vas te retrouver dans un autre temps. Et le temps là, c'est ça le temps de la vie normale. Tu vas dire pardon, et s'il y a quelqu'un pour m'aider, on dit il n'y a plus le temps. Même ton cerveau pour lire va dire je ne comprends rien. Tu dis lis, il y avait le temps pour ça. Tu n'as pas compris. Tu as dit que tu as le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à prendre soin de mon temps. À prendre soin du temps que tu me donnes. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, prenons le verset 15 au verset 16. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire prenez donc garde à marcher soigneusement. Il est non comme des insensés, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps. La sagesse, ça veut dire que quoi? La sagesse veut dire quoi? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est savoir faire ce que tu dois faire au moment où il faut le faire et quand il faut le faire. C'est ça la sagesse. Amen. Amen. La sagesse, c'est simplement ça. Fais la bonne chose au bon moment. Fais la bonne chose au bon moment. Fais la bonne chose au bon moment. C'est le moment d'étudier, étudie. Amen. C'est le moment de travailler, travaille. C'est le moment de réfléchir, réfléchir. Mais si c'est le moment d'étudier, tu te balades. Le temps là, tu vas payer ça comme ça. Demain, tu vas payer ça comme ça. Alléluia. Tu vas payer ça comme ça. Pour retrouver, même beaucoup partent, même ils meurent sans avoir rattrapé le temps. Amen. Ils meurent sans rattraper le temps. Parce que le temps où ils devaient faire X choses, ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés faire autre chose. Et le lendemain, ça paye cash. Ça paye cash. Alléluia. Ça paye cash. Ça paye cash. Quand tu accumules les années au même endroit, demain tu vois tes camarades avancer dans la vie, tu as honte. Personne ne te dit tu as honte. Toi-même, tu sens que tu as honte. C'est pas vrai. Hein? Tu accumules les années sur place. Tu fais du n'importe quoi. Tu restes sur place. Demain, tu sors. Quand tu rencontres tes camarades, tes amis, ils disent que tu es devenu quoi? Toi-même, expliquer te dépasse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Expliquer. C'est-à-dire que tu es même le jour-là avec ton père ou ta mère, et il reste aussi là tant que tu expliques lui-même en temps. Quand ça le dépasse. Il dit, oui, explique, dis-lui. Tu es devenu quoi? Tu fais quoi, moi? Ah, ah Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui. Hein? Quand je rencontre mes amis de classe, ils disent toujours que pourquoi tu as fait? Tu es devenu pasteur. Tu avais des capacités ailleurs. Amen. Et pourquoi tu as fait ça? J'ai fait le temps de ce que je pouvais faire. Je ne regrette pas. Amen. Je n'ai pas perdu mon temps. Écoutez, deux ans, trois ans, quatre ans, donne seulement le temps à la vie. Amen. Un seul ami de ton passé va te faire réaliser que tu as perdu du temps. Une seule question, hein? Tu es devenu quoi? Tu fais quoi maintenant? C'est une question dangereuse. Hein? C'est dangereux. Il y a des gens, quand ils voient les anciens camarades, ils peuvent savoir s'ils continuent parce qu'ils ont peur de la question-là. Il lève la main, il fait seulement, j'ai pas le temps. Oh, c'est quoi? Donne-moi ton numéro, il t'appelle. Il sait qu'il ne va jamais appeler. Parce qu'il a peur, ou elle a peur de cette question-là. Qu'est-ce que tu deviens? Mais tu étais, waouh, mais tu, au lycée là, mais tu étais, mais tu as perdu, hein. J'avais une camarade. Je vous ai toujours raconté ça. Elle bagarrait beaucoup à l'école. Elle bagarrait beaucoup. Nous, on fréquentait. Elle bagarrait nos bagarres. Alléluia. Et dans ma tête, à l'école, elle faisait comprendre qu'elle est grande, qu'elle a des connexions, que sa famille est... Amen. Un jour, la vie, c'est bizarre, hein? Un jour, à l'époque, l'apôtre Robert habitait en face de... Il habitait dans un autre quartier, avant là où il habite. Il habitait à l'époque là, comment on appelle là-bas? Non. Ici, après Ndokoti, là. C'est là-bas, voilà. J'arrive là-bas, je vous fais. Le voisin de l'apôtre. On me dit, il y a un couple là-bas. Le monsieur tape sur sa femme chaque jour. Et vous savez quoi? La femme qui tapait, c'était ma camarade là. Jesus! Je la vois sortir. Je vois, elle sort, pape. Je dis, hey, moi-même, je suis vite entré dedans. Je ne pouvais plus l'appeler que c'est comment? Ah Jésus, la vie c'est, ça nous rattrape. Je suis entré rapidement dedans. J'ai dit seulement la première fois, c'est ma camarade de classe. Oh. une bagarreuse, de la trouver plus fort qu'elle au Jésus. Mais le type, la base, et l'apôtre me dit, c'est comme ça chaque jour. C'est comme ça chaque jour, on tape, on se met dehors, on remet dedans, on tape, on tape, on tape, j'ai dit Jésus. Amen. Alléluia. La vie ici. Tu es administrateur de ton temps. Le temps que Dieu te donne, fais la bonne chose. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Amen. Sois sage. Fais la bonne chose. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Si tu dois te former, c'est le temps de te former. Forme-toi. Parce que demain, tu n'auras plus les capacités. Demain, tu n'auras plus la force. Tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus les capacités pour faire cela. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, je suis administrateur de mon temps. Je suis administrateur du temps que Jésus m'a donné. Je suis administrateur du temps que Jésus m'a donné. Ne blague pas avec le temps que Jésus t'a donné, frère. Tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Beaucoup descendent plus juste que nous n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Tu crois que tu es plus fort? Tu crois que tu es plus sage? Tu crois que tu es plus beau, tu es plus belle? Non! Dieu a trouvé bon de te garder en cette journée. Parce qu'il va quelque part avec toi. Et il espère que tu sois conscient que tu as un temps chronométré. Et que tu ne vas pas gaspiller le temps qu'il te donne pour faire du n'importe quoi, pour être ailleurs que là où tu devrais être. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.